Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Nous sommes
Nadim,
Cédric,
Jonathan.
Et nous avons l'honneur de recevoir Son Excellence Monsieur François Nicolau.
Bonjour chers amis, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous et que je suis prêt à répondre à toutes vos questions.
Nous avons su que vous avez été l'ambassadeur et que vous avez également écrit un livre appelé « Le turban et la rose ». Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
En effet, je suis un diplomate professionnel. J'ai plus de 40 ans de carrière à travers de nombreux pays. Et le dernier pays dans lequel j'ai servi a été l'Iran, où j'ai été ambassadeur de 2001 à 2005. Avant l'Iran, j'étais en poste aux États-Unis, au Chili, en Allemagne, en Inde et en Hongrie. Et en Iran, donc à la fin de mon séjour, quand j'ai quitté l'ambassade et la carrière diplomatique, en effet, à la demande d'un éditeur français, j'ai écrit un petit livre de souvenirs, hein, de souvenirs où je parle de l'Iran, à la fois de son système politique, mais aussi de la vie quotidienne, de la vie des gens au jour le jour, de petites anecdotes qui essayent de faire comprendre, au fond, l'âme de l'Iran, l'âme du peuple iranien. Et voilà, ce livre s'appelle « Le turban et la rose » et il est édité chez Ramsay.
Comment devient-on ambassadeur ?
Ouh, ça c'est une grande question. Il y a quelqu'un qui expliquait que monter en grade, c'est-à-dire monter les échelons d'une carrière, c'est ramper verticalement. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait, mais c'est vrai, pour être ambassadeur, il faut déjà avoir, en général, à moins d'être particulièrement brillant, il faut avoir quand même quelques cheveux gris, il faut avoir un peu d'expérience, il faut avoir exercé des fonctions de troisième secrétaire, puis de deuxième secrétaire, puis de premier secrétaire, et enfin de conseiller, puis avec l'âge et l'expérience, si le gouvernement de la République, si le président de la République a confiance en vous, eh bien, il vous confie des fonctions d'ambassadeur. J'ai été deux fois ambassadeur dans ma vie. J'ai été une première fois en Hongrie de 1993 à 1997. Et la deuxième et dernière fois, ça a été l'Iran.
En quoi consistent les fonctions de troisième secrétaire, deuxième secrétaire, premier secrétaire, conseiller ?
Eh oui, une ambassade, il y a une hiérarchie, il faut faire un peu tous les travaux, il y a des grades en quelque sorte, c'est comme dans l'armée, vous avez des sergents, des adjudants, des lieutenants, des capitaines, des colonels, et à la fin vous avez le général tout à fait en haut, eh bien l'ambassadeur c'est un peu comme le général, mais aussi il faut des gens pour faire tous les autres travaux, eh bien quand je dis le troisième secrétaire, c'est en effet le premier poste que j'ai occupé, c'est le poste des jeunes, c'est les jeunes qui apprennent le métier auquel on confie les tâches les plus simples dans une ambassade de rédaction, d'observation, de suivi de certains dossiers relativement simples. Et quand on prend de l'expérience, effectivement, on vous confie des responsabilités de plus importantes, on devient conseiller. Alors quand on est conseiller, on peut se voir confier un secteur tout entier. On peut par exemple être conseiller de presse. On s'occupe de toutes les relations avec la presse, les radios, les télévisions, les journaux sur place. On peut être conseiller culturel. Donc on s'occupe des établissements d'enseignement, des lycées et des écoles, mais aussi de faire venir des troupes de théâtre, mais aussi d'avoir des opérations de coopération avec le pays dans lequel on se trouve. Et quand on monte encore en grade, eh bien on devient par exemple chargé d'affaires, c'est-à-dire qu'on est juste derrière l'ambassadeur. Et quand l'ambassadeur n'est pas là, eh bien on le remplace, parce que l'ambassadeur aussi, de temps en temps, il prend des vacances, il peut être appelé à Paris. Il est normal qu'il y ait un chargé d'affaires pour piloter l'ambassade en son absence.
Et combien de temps ça vous prend pour passer de tout ça à être ambassadeur ?
Eh bien moi, je vais vous dire, j'ai commencé ma carrière en 1964, hein, ça paraît très très loin, très très loin, et j'ai été pour la première fois ambassadeur en 1993, donc 29 ans, vous voyez que devenir ambassadeur, c'est une longue patience, il faut être très très patient avant toute chose.
Et ça vous prend combien de temps de passer, par exemple, du premier au deuxième au conseiller ?
C'est variable, mais en général, on passe 3-4 ans dans chaque fonction. Et puis, on travaille dans des ambassades, donc à l'étranger, hein, mais aussi, il faut travailler à Paris. C'est-à-dire que les membres du ministère des Affaires étrangères, les diplomates, ben, ils passent une, je sais pas, 4, 5, 6 ans à l'étranger, puis ils rentrent à Paris, parce qu'à Paris aussi, ils font des fonctionnaires qui suivent les dossiers qui concernent les affaires étrangères de la France, la diplomatie de la France. Il y a un ministère, le ministère des Affaires étrangères, où il y a plusieurs milliers de personnes qui travaillent à Paris, au moins provisoirement. Puis quand on a passé 3 ou 4 ans à Paris, bien à ce moment-là, on repart vers l'étranger. Moi, j'exerçais un certain nombre de fonctions à Paris, en effet.
Vous aviez tantôt parlé de la hiérarchie, mais après l'ambassadeur, c'est qui est le second ?
Alors, en effet, dans une ambassade, comme tu l'as bien dit, il y a une hiérarchie, et le second, c'est précisément ce que j'appelais le chargé d'affaires. On voit bien l'idée, ce que ça veut dire, c'est qu'il est chargé de régler les affaires quand l'ambassadeur n'est pas là. Et le poste de second est un poste délicat, parce qu'effectivement, non seulement il remplace l'ambassadeur quand il n'est pas là, mais il travaille aussi quand l'ambassadeur est là quand même. Hein. Il ne reste pas, il ne se repose pas. Et donc, il règle un peu toutes les questions que l'ambassadeur n'a pas le temps de regarder en détail, en quelque sorte. Il s'occupe un peu de tout. Il est un peu vraiment l'adjoint. Il est effectivement l'adjoint de l'ambassadeur sur toutes les affaires que traite une ambassade. Et vous l'avez vu, une ambassade ça traite beaucoup d'affaires, parce que les relations diplomatiques, ça ne concerne pas simplement, disons, la politique avec les visites du président de la République ou des choses comme ça. Ça concerne les relations culturelles, ça concerne l'aide au développement, la coopération. Ça concerne vraiment énormément de secteurs. Et puis, il y a un sujet dont s'occupent aussi beaucoup les ambassades, ce sont les communautés françaises dans le pays où on se trouve. Dans chaque pays, il y a des Français. Nous sommes en Égypte. Il y a des milliers de Français en Égypte, et l'ambassade, aidée par les consulats, parce que à côté des ambassades il y a des consulats, s'occupe effectivement aussi de veille à la sécurité, à la santé, au bien-être des communautés françaises.
C'est quoi un consulat ?
Alors, un consulat, précisément, c'est un petit bureau, en quelque sorte, qui est ce consacre à deux choses. Premièrement, s'occuper des Français, où ils se trouvent. Hein. Ça, c'est la première tâche très importante. Mais il a aussi une deuxième tâche, c'est de s'occuper des étrangers qui veulent aller en France. Et donc, un consulat, c'est un bureau qui délivre notamment des visas. Et par définition, dans chaque pays, il y a des milliers, des dizaines de milliers, quelquefois des centaines de milliers de personnes qui ont besoin de se rendre en France pour faire du tourisme, pour aller voir leur famille, pour se faire soigner, quelquefois parce qu'ils ont pris la décision de s'installer en France, de vivre en France, qu'ils ont l'autorisation de s'installer, de travailler en France. Eh bien, pour un certain nombre de pays, notamment les pays européens avec lesquels on est très proche, on n'a pas besoin d'avoir un visa, mais pour un grand nombre de pays, quand on arrive en France, comme vous l'avez sans doute vérifié vous-même, on fait la queue à un guichet, il y a des policiers qui vérifient que votre passeport est en règle et que sur ce passeport, il y a un visa. Eh bien, ce visa, il est délivré par les consulats. Mais les consulats, avant de délivrer un visa, vérifient un certain nombre de choses. Ils ne donnent pas des visas à n'importe qui. Ils s'assurent en particulier que la personne qui se rend en France a de quoi vivre en France, tout simplement. A de quoi manger, dormir, être accueilli, etc. Pour ne pas que tout à coup, une fois qu'il est entré en France, il se trouve indûment à la charge de la France.
Vous êtes également délégué à l'Assemblée de Français de l'étranger et président de l'association nommée Français du monde. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ?
Eh oui, il y a 2 millions de Français à l'étranger, ce qui est beaucoup. Il y a des pays qui ont encore bien plus de compatriotes à l'étranger. Je cite toujours les Italiens. Les Italiens, ils ont 15 millions d'Italiens qui vivent hors d'Italie. Nous, on est plus modestes. On a quand même 2 millions, mais 2 millions, ce n'est pas rien, hein, quand même. Et ces Français, eh bien, ils ont des préoccupations communes. ils ont des attentes communes, ils ont des revendications quelquefois communes, et il est assez normal qu'ils s'organisent pour faire entendre leur voix, pour faire entendre leur voix en France, et ils s'organisent, ben, comme tout le monde, au travers d'associations. Et donc, pour représenter les Français à l'étranger, il y a deux grandes associations de Français de l'étranger, et je préside une de ces deux associations, effectivement. Ces associations sont organisées en sections, c'est-à-dire qu'il y a à Paris un siège, il y a la direction en quelque sorte à Paris, mais dans chaque pays, il y a les membres de l'association ont une section, et ces membres de l'association, des deux associations d'ailleurs, eh bien, ils s'organisent pour aider les autres Français. Au fond, ils s'intéressent aux autres Français, ils essaient de leur donner un coup de main quand ils sont en difficulté, par exemple. Ils font remonter les problèmes qu'ils peuvent avoir. Il y a des Français qui sont malades et qui ne peuvent pas être soignés, par exemple, hein. Ça, c'est un cas assez fréquent. Il y a des Français qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir mettre leur enfant à l'école. Et donc, ils ont besoin d'une bourse, ils ont besoin d'argent. Ce sont les consulats qui délivrent les bourses. Et très souvent, les membres des associations, eh bien, ils servent un peu de relais, ils servent d'interprètes, en quelque sorte. Ils s'occupent, donc, ils donnent un coup de main, au fond, à tous les Français qui sont autour d'eux. Et nous, à Paris, eh bien, on relaye, en quelque sorte, on entend tout ce qui nous monte de toutes nos sections à travers le monde. Et nous aussi, on va vers l'administration française, on va vers le ministère des Affaires étrangères, en disant « Ah ben, il y a tel problème à tel endroit, il faut faire attention, il y a des Français en difficulté, ou vraiment le système scolaire présente à l'étranger, présente vraiment tel ou tel défaut très sérieux, il faut absolument trouver des solutions à cela, on essaye de concevoir ces solutions. » Voilà, c'est tout ce sur quoi on travaille. Et je terminerai en disant quelque chose, c'est que il y a donc... c'est 2 millions de Français, il y a toutes ces associations, et ces associations, elles contribuent aussi à faire élire, à présenter des candidats à l'élection des Français de l'étranger, car les Français de l'étranger, ils votent, ils élisent en quelque sorte des députés, mais des députés spécialisés pour les Français de l'étranger. Il y a une assemblée des Français de l'étranger qui se réunit à Paris, un peu comme les députés à l'Assemblée nationale, hein. Mais ce n'est pas la France tout entière, là c'est uniquement les Français de l'étranger, et cette petite assemblée, puisqu'elle fait 150 membres, eh bien travaille elle aussi sur toutes les questions qui intéressent les Français de l'étranger, parce que c'est très important que une administration entende ce que disent les gens. Une administration, elle n'est pas forcément à l'écoute de tout ce qui peut arriver à travers le monde. Donc c'est très bien qu'il y ait des associations, qu'il y ait des élus qui viennent expliquer aux gens leur vision des choses et qui viennent expliquer quels sont les problèmes des Français, quelles sont les attentes des Français à l'étranger.
Et si des Français font un problème, par exemple, à la justice, est-ce que vous enlevez ces aides ?
Alors, au contraire, non, enfin, je veux dire, c'est une très bonne question. Il y a aussi une des responsabilités des consulats, mais aussi des associations de Français qui viennent les aider, c'est les Français qui ont été condamnés, par exemple, soit quelquefois ils ont été condamnés justement, puis quelquefois ils ont été condamnés injustement dans un certain nombre de pays, mais condamnés justement ou injustement, il reste quand même des Français. Donc, s'ils sont condamnés à de la prison, par exemple, eh bien, pendant qu'ils purgent leur peine de prison, eh bien, on essaye de les aider, on leur apporte du réconfort moral, on leur apporte de l'aide, un peu de nourriture, enfin, tout ce qui est de la lecture, quelquefois, tout simplement, parce qu'ils sont très isolés dans les prisons. Ça, les consulats font très bien cela. Et puis, quelquefois aussi, si des Français sont en difficulté, peuvent être en difficulté, qui n'ont pas d'avocat, par exemple, ils n'ont pas de quoi payer un avocat s'ils sont poursuivis, justement ou injustement. Donc, là encore, il faut leur donner un coup de main. Et tout à fait normal que les consulats et nos associations de Français donnent un coup de main à ces Français en difficulté.
Et vous leur laissez une deuxième chance ? Une deuxième chance ?
Ah ben nous, on leur laisse une deuxième chance. Non, c'est bien, tu as raison, c'est vrai. Je veux dire, quelqu'un qui a été condamné, eh bien, on part du principe qu'une fois qu'il a été condamné, qu'il a purgé sa peine, s'il a été justement condamné, eh bien, il a, comme on dit, c'est une vieille formule, mais il a payé sa dette à la société, il a été puni, et une fois qu'il a été puni, qu'il a fait sa peine, eh bien, on repart à zéro. Il a de nouveau une nouvelle chance dans la vie, bien sûr, il a tout à fait droit à une nouvelle chance.
Et est-ce que, après avoir été libéré, est-ce qu'il a le droit de rester dans ce pays où il a été condamné ou il doit retourner en France ?
Il y a plusieurs cas de figure. Il y a en effet un certain nombre de pays qui, à la sortie de prison, expulsent l'étranger. Si c'est un Français, par exemple, on le renvoie en France parce qu'on n'a pas envie qu'il reste sur place. Et nous aussi, d'ailleurs, on s'occupe aussi de le rapatrier parce que, quelquefois, ils n'ont même pas de quoi se payer le billet d'avion pour rentrer en France. Donc, c'est quelque chose que nous faisons, nous aussi, enfin, que font les consulats, notamment.
Est-ce que souvent, vous arrivez à faire sortir les condamnés français à l'étranger avant la date de leur libération ?
Ça m'est arrivé une ou deux fois, effectivement. Quand j'étais un jeune agent, je suis allé dans les prisons et j'ai sorti quelques Français de prison. Je pense que je les ai un petit peu aidés à sortir de prison avant l'heure. Mais c'était là puisque c'est intéressant quand même, c'était pas des prisonniers de droit commun, c'était pas des gens qui avaient volé ou tué, c'était ce qu'on appelle des prisonniers politiques. J'étais au Chili, il y avait eu un coup d'État. Et à un moment d'un coup d'État, bien le nouveau régime avait mis en prison tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il avait mis en prison beaucoup de gens. Et parmi ces gens, il y avait en effet quelques Français. Et il s'est trouvé que je me suis occupé d'eux. Je suis allé les voir en prison. J'ai assisté à leur jugement. J'ai parlé à leur juge, etc. On a obtenu des allègements de peine. Et il y en a même un peut-être, je pense qu'il aurait dû être fusillé normalement. Mais heureusement, comme dans la prison où il était, le chef de la prison avait compris que l'ambassade de France s'intéressait à lui, on l'a un peu mis de côté au moment où on exécutait tous les autres, il a été sauvé. Voilà le genre de travail qu'on peut faire quand on est un diplomate.
Pourquoi avez-vous accepté les fonctions de président de cette association ?
Eh bien, parce que, ayant terminé ma carrière diplomatique, j'avais encore envie de servir, d'être utile à mon pays, d'être utile aux Français. Et comme c'est un domaine que je connaissais bien, la vie à l'étranger, les Français de l'étranger, eh bien, je me suis porté candidat pour occuper ce poste. J'ai été encouragé à me porter candidat par un certain nombre d'amis et j'ai eu la très grande joie et même l'honneur d'être élu à ce poste que j'exerce depuis maintenant 3 ans, car je pense que j'avais effectivement une certaine expérience du fait des postes que j'ai exercés à l'étranger et dont on a parlé, et du fait aussi que je suis né à l'étranger. Et devinez où je suis né en Égypte. Voilà, je suis né en Égypte il y a très longtemps, et même je suis né en Égypte de parents qui étaient nés en Égypte et de grands-parents qui étaient nés en Égypte. Donc je suis vraiment un Français de l'étranger.
Vous êtes ici pour animer une conférence sur l'histoire et l'actualité de la nucléaire.
En effet, c'est un des grands problèmes de notre temps. La bombe atomique est un sujet qui est une source de peur, d'angoisse, et à juste titre. Hein. Depuis les premières explosions atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, à la fin de la Première Guerre mondiale, hein, dont on sait qu'elles ont tué en une seconde des centaines de milliers de personnes, eh bien, l'humanité, le monde entier, la Terre, vit sous la menace atomique, parce que un certain nombre de pays détiennent des arsenaux d'armes atomiques, des quantités importantes de bombes atomiques, et il peut toujours arriver, même si on n'y pense pas tous les jours, il peut toujours arriver que, par un enchaînement de circonstances, eh bien, un pays décide d'utiliser ses armes atomiques pour se défendre, pour attaquer. Et donc, on sait que le monde entier vit sous la menace d'un jour, d'une guerre atomique, où il y aurait des millions ou des dizaines de millions de morts. Et c'est un sujet vraiment très important pour notre temps. J'ai travaillé sur ce sujet pendant très longtemps dans mon ministère, comment essayer de diminuer en quelque sorte cette menace, d'éviter que trop de pays acquièrent l'arme atomique. Et comme c'est un sujet que je connais un petit peu et que j'ai eu aussi l'occasion sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler quand j'étais en Iran, voilà, je suis très content de pouvoir faire dans votre lycée une conférence sur ce sujet.
Merci.
À qui doit-on cette initiative ?
On doit cette initiative à la fois à l'association Français du Monde ADFE qui a proposé ce sujet à la direction du lycée, et puis on la doit aussi au lycée lui-même et à sa direction qui a très gentiment accepté qu'on fasse cette conférence ici, a prêté des locaux et a fait de la publicité à la conférence. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde tout à l'heure.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la nucléaire ?
L'arme nucléaire. Et oui, enfin, l'arme nucléaire, au fond, c'est un peu ce que j'ai dit. C'est, au fond, c'est la même chose que la bombe atomique. La bombe atomique, l'arme nucléaire, c'est la même chose. Bon, depuis l'époque d'Hiroshima et de Nagasaki, donc depuis plus de 60 ans, on a fait, malheureusement, on peut le dire, beaucoup de progrès. À l'époque, les bombes nucléaires étaient des très grosses bombes qu'il fallait transporter dans de très gros avions. Eh bien, aujourd'hui, on les met sur des missiles. On les met sur des missiles. Elles sont beaucoup plus petites, elles sont plus légères. Et grâce à des missiles intercontinentaux, en quelques minutes, on peut les envoyer à n'importe quel endroit du globe. Alors que, évidemment, il y a 60 ans, il fallait prendre des avions qui étaient eux-mêmes fragiles, qui mettaient des heures et des heures peut-être pour arriver à leur cible. Tout est devenu beaucoup plus immédiat, beaucoup plus rapide, et donc, évidemment, beaucoup plus dangereux.
Merci.
Merci à vous, merci. Vous avez posé des questions très intéressantes. Je vous remercie d'avoir posé des questions stimulantes. Pas de regrets, encore une petite question, bien volontiers.
Une dernière. Êtes-vous présent en Égypte seulement à l'occasion de cette conférence ou y a-t-il d'autres raisons ?
Je viens en Égypte, en effet, pour faire cette conférence. J'ai fait également une autre conférence hier au Centre culturel français du Caire. Je vais à Alexandrie, je ferai également une conférence à Alexandrie. Mais surtout, la raison de ma présence, c'est que je suis le président de cette association de Français de l'étranger et que je viens avant tout pour rencontrer les Français de l'étranger, rencontrer les Français d'Égypte, comprendre quels sont leurs problèmes, les écouter. Et d'ailleurs, ces conférences, c'est aussi une façon de les rencontrer finalement, de les faire venir et d'avoir un contact avec eux.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Au plaisir de vous revoir. Très bonne fin de journée.
Merci, chers amis. À vous aussi. Très bonne fin de journée.